Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Roten.
18h tout pile sur RMC, bonsoir à tous, bienvenue dans Roten sans flamme. On va passer une magnifique émission, je vous annonce, j'ai passé une grande journée. Hier, on s'est régalé avec notre jeu de la vérité dans Roten sans flamme. C'est le thème de la semaine, voilà, le jeu de la vérité, on s'est régalé, on va se régaler aujourd'hui parce que vous allez voir le casting, c'est un casting de folie comme tous les jours. Il fait beau, il fait bon. Donc restez avec nous pendant 2 heures avec Benoît Boutron. Salut Benoît.
Salut Jérôme, salut à tous.
Ah Benoît.
Super, bon. Je suis ravi des retours qu'on a sur le jeu de la vérité. En plus, ça crève certains abcès, voilà. Parfois même dans la Dream Team. Ça vous permet de vous expliquer en direct.
Franchement, c'était bien à faire.
Même toi, t'es sorti soulagé.
J'ai hâte d'entendre Pascal Olmeta qui est là. Salut Pascal.
Salut les gars. Salut tout le monde.
Ah, Pascal.
Ceux qui nous écoutent.
Ça va?
Et puis n'oubliez pas.
T'es prêt?
Le 10 novembre à Mayol.
Oui.
À Mayol, au stade de Mayol.
Le grand match.
Exactement.
Eh oui, le grand match pour mon association.
Il reste des places.
Espoir pour la vie. Il reste des places, heureusement. Hein, heureusement. Mais bon, il faudrait se dépêcher.
Eh oui.
Ouais. Pascal.
Et puis, si je peux vous en raconter une petite, j'ai mon électricien Nico qui écoute
Nico.
RMC, qui nous écoute.
Ça, c'est gratos. Ouais. Allez, hop, c'est l'intervention
ouais,
gratos.
Parce que semaine dernière, bon, il y a un truc qui s'est passé, ça a disjoncté. Là, je l'ai fait venir chez moi.
Ouais.
Et puis, il est arrivé. Quoi?
C'est toi ou c'est la maison qui a disjoncté?
Non, moi non, je disjoncte plus à mon âge, les gars. Vous savez que
c'est vrai qu'il
y a autre chose qui disjoncte.
Oh, oh.
Et mais il est venu, il a dit ben non, Pascal, je peux rien faire. Je dis ah bon, pourquoi? Il me dit eh ben parce que comme il pleut pas, eh ben ça peut pas disjoncter. Elle est pas bonne, celle-là, les gars.
Et ben on embrasse Nico, c'était super.
Et en fait, Nico, il a fini au fond de la piscine avec un boulet au pied et il est mort.
Non, parce qu'il fait 2 mètres de haut. Et croyez bien qu'il faut pas l'énerver.
Je savais que c'était pas courageux.
On lui fait un clin d'œil à notre ami.
Écoute, on fait un clin d'œil surtout. On va l'entendre pendant 2 heures. C'est Jean-Michel Larqué. Salut Jean-Mi.
Ah, salut Jean-Mi.
Il est là. Il est là, papy.
Bonjour. Elle était très très bonne, ta carte.
Excellente
histoire.
Ah, ça commence bien, Jean-Michel.
Il fallait que j'en parle.
Il y a que chez nous en Corse. Là, en plus, il fait 30, les gars, il fait 32 degrés. Ouais.
Alors, rassurez-vous, Pascal a réglé ses comptes avec Nico, mais à 19h, il va participer au jeu de la vérité.
RMC, Roten sans flamme, le jeu de la vérité.
Vous avez juré de dire toute la vérité, rien que la vérité et que la vérité.
Pascal Olmeta, légende de l'OM, légende du football corse, dira la vérité. Toute la vérité, rien que la vérité, ce soir à 19h sur RMC. On est allé en Corse lui installer la machine anti-mensonge, voilà, détecteur de mensonges. C'est bien, tu l'as bien reçu, Pascal, tout est prêt, c'est bon?
Ouais, tout est prêt, ouais.
Magnifique.
Mais bien le doigt dedans, hein, pas autre chose.
Ouais, hein. Je vais te le mettre au
rendez-vous à 19h. Toutes les vérités de Pascal Olmeta. Un grand moment de radio qui vous attend. On a bien bossé. Ça va être fantastique. Ouais. Un invité à 18h40 dans Allô Jérôme. On est ravis de le recevoir. On est allé avec La Fontaine aujourd'hui, tous les deux, Jérôme, pour aller rencontrer la belle surprise de la liste de Didier Deschamps. Jean-Philippe Mateta, l'attaquant de Crystal Palace, sera dans Roten sans flamme.
Ça plaisir irrécertain quand je parle de Mateta.
Eh ben exactement. Jérôme. Il sera là à 18h40.
Jérôme, alors écoute, là.
Jérôme.
Non, mais ça veut dire quoi le 1 Jérôme? Non, mais ça veut dire quoi ça? Non, mais vas-y. J'ai déjà été négatif sur Mateta.
Mais quand j'ai évoqué sa sélection, ça t'a fait rire.
Ah non, pas du tout.
T'as fait sourire.
Ah non, pas du tout. Ah non, mais je pense que t'as confondu.
Bon, on en reparlera tout à l'heure.
Ah, ça m'inquiète.
J'ai fait plusieurs émissions, non?
Peut-être. Je suis pas dans ta tête, moi. Mais...
Bon. Et puis à 18h30, soyez là, le procès de la Fédération Française de Football et de sa communication sur la blessure de Barcola. Nouvel épisode dans la guéguerre entre la Fédé et le PSG. On vous en parle. À 18h30. Et puis attention.
Quelle honte.
Nos équipes à RMC, nos équipes qui dirigent l'antenne sont en train de bosser avec un nouveau jeu cette fois-ci, le jeu des poupées RMC. C'est le nouveau jeu sur le principe des poupées russes.
Ah, c'est Greg Caranoni.
C'est Greg Caranoni qu'on salue, qui a toujours de très belles idées.
Ah, bah, de toute façon, il est là pour ça. Hein.
Un cadeau dans chaque poupée.
iPhone, console de jeu, poupées, voyage,
il y a Halloween, il y a Halloween 60, qui arrive 90,
jusqu'à 5000 euros. Ça, vous connaissez le principe des poupées russes, Jérôme. Au moment venu, et
c'est la
les
semaine
ouvrira.
Russe là ou
eh ben tu verras. Écoute,
c'est pas des poupées gonflables.
Vous aurez 45 secondes chrono pour ouvrir un maximum de poupées. Si un cadeau vous plaît, vous arrêtez, vous repartez avec ce cadeau. Pour vous inscrire, envoyez RMC par SMS.
La dernière, c'est
32
une poupée 16. Gonflable, hein, parce que
RMC.
Voilà, papy, c'est pour papy.
Allez, 18h04 sur RMC. Jérôme, les vedettes parisiennes ne se déplacent même plus en hein,
voilà.
On s'en fout, on n'y va pas. On a qu'à se cacher sous les draps.
On va parler d'une Coupe d'Europe, mais pas celle que vous croyez. C'est la Youth League.
Au milieu de terrain, il y aura Quentin Djantou pour sa première titularisation en pro et Ibrahim Baye à la droite de l'attaque du PSG.
Waouh !
La Youth League date en fait de 2013, année où le CA demande à l'UEFA de créer une Ligue des Champions pour les équipes de jeunes.
C'est bien enroulé, c'est au fond ! Le but !
Oh, quel mur ! Il y aura 32 équipes, celles qui participent à la Ligue des Champions, qui vont envoyer leur section U19.
Et Kylian Mbappé, la frappe ! Oh, le but ! Le but !
Ça va être les mêmes équipes dans les mêmes groupes.
C'est terminé avec ce match nul inespéré pour les Lillois parce que franchement Paris a été au-dessus.
Le trou de balle à zéro, tu l'as ou tu l'as pas ?
Les deux premiers de chaque poule se qualifient en 8e, quart, demi-finale.
Si tu mets un autre maillot que le PSG à ces mêmes joueurs-là, bah t'as pas le même match en fait.
La France c'est pas le pays le plus représenté, on a l'Allemagne avec 5 clubs.
Mais comme c'est le PSG, soumission psychologique en fait.
Voilà. Essaye de te recentrer, essaye de descendre un petit peu d'un nuage.
On s'en fout, on y va pas, on a casse-cache.
Manu, c'est demain le jeu de la vérité.
Là, 19h demain. Manu Petit.
Ah bah il va descendre de son nuage.
Le PSG a donc mis en valeur son centre de formation dimanche soir à Lille en Ligue 1. 4 titis ont démarré le match. Warren Zaïre-Emery qu'on voit souvent. Ndjantou était titulaire tout comme Mayulu et Mbaye. Un seul titulaire en finale de Ligue des Champions a démarré, c'est Pacho. 21 ans de moyenne d'âge pour ce 11 parisien. Malgré tout, le PSG a failli l'emporter en menant un but à zéro, le but de Nuno Mendes. Ouais. 62% de possession de balle. Paris très remanié qui prend un point à Lille. Est-ce que c'est inquiétant pour le niveau de la Ligue 1? 32-16 pour participer avec nous. Est-ce que c'est le constat que tu fais, Jérôme? Est-ce que tu t'inquiètes pour la Ligue 1 quand tu vois cette équipe bis, voire terre du PSG qui va aller prendre un point à Lille?
Oui, parce que ça fait partie de nos combats. Je pense que on aime tous le football français, on aime tous le championnat de France. Et nous, on va pas cracher dans la soupe, hein, les anciens. Mais on se rend compte d'une chose, c'est que oui, le PSG boxe pas dans la même catégorie, mais ça on le savait déjà financièrement. Mais après sportivement, moi je pars du principe que il y a des équipes qui ont pris trop de retard et pourtant ils ont des moyens qui sont importants. Hein. On peut pas dire que Lille est un club pauvre. On peut pas dire que Monaco est un club pauvre, que Marseille est un club pauvre, que Lyon aujourd'hui c'est complètement différent, ouais. Mais c'était pas le cas avant. Lens n'est pas pauvre non plus, tu vois. Mais ça travaille bien. Rennes, pareil, tu vois. Donc il y a quand même des équipes qui sont qui ont des moyens et qui pour moi ne travaillent pas assez bien dans tous les cas et rattrapent pas un petit peu le fossé, le retard qu'il y a.
Donc,
sur Paris Saint-Germain.
Elles ont beaucoup moins de moyens que le PSG.
Elles ont beaucoup moins de moyens, mais je suis désolé face à un Paris Saint-Germain bis, équipe bis, parce que c'était réellement le cas contre Lille et c'est le cas aussi trop souvent contre d'autres équipes. Il y a une différence qui est énorme et qui est c'est pas possible d'accepter ça. C'est pas possible. Si nous, on n'est pas là pour le dénoncer, bah, qui va le faire? C'est pas le président de la Ligue, Vincent Labrune, qui va le faire, ouais. Parce que lui, il se gargarise, si tu veux, des résultats en Coupe d'Europe.
Mais Lille n'a pas joué, hein, clubs français.
Non, mais Lille n'a pas joué. Dernièrement, on a vu les matchs au Parc contre un PSG qui est en plus, sur le début de saison, vraiment pas au niveau physique, digne d'un bon club de Ligue 1.
Juste un bon match de Ligue 1, pas sûr. Hein.
De Ligue 1?
Ouais.
Non, je suis pas sûr. Je suis pas sûr.
Parce que Jérôme, Genesio, il aime ce jeu-là. Lui, il fait jouer.
Oui, mais alors va comprendre Pascal, et c'est pour ça que moi je le note, c'est que tu peux pas accepter que ce fossé reste comme ça face à une équipe du Paris Saint-Germain qui est une équipe bis et qui risque par rapport à l'accumulation des compétitions, le manque de repos, d'accumuler les blessures et des fois d'avoir en effet a posé le week-end, Luis Enrique a posé une équipe qui ressemble plus à une équipe C qu'à une équipe A, quoi, tu vois. Et moi, j'accepterai jamais que les clubs, ils ne proposent pas plus de choses et ils mettent pas plus en difficulté Paris Saint-Germain. Après, on a joué au football. C'est pas parce que tu fais un bon match et que tu maîtrises le jeu que tu vas gagner. Des fois, tu te retrouves, en effet, à avoir un résultat négatif alors que t'as été bien inspiré. Ouais. Le Paris Saint-Germain était sur le reculoir, a eu beaucoup de réussite, mais c'est pas le cas. Le match à Lille, C'est pour ça qu'on en fait des tonnes là depuis ce week-end. C'est pas possible de nous pondre ça. Et surtout, ce qui est pas possible, et c'est pour ça que je le dis, les gens assumés, les Lillois assumés, les dirigeants lillois, les joueurs et l'entraîneur Bruno Genesio assumaient que ce match-là, vous êtes complètement passé à côté. Que c'était peut-être l'occasion de montrer que le niveau, votre niveau, il progressait. Et à l'inverse, on n'a pas l'impression qu'ils progressent, ils régressent plus qu'autre chose. Ils sont à l'image du football français, le constat qu'on a. Et surtout, t'as un PSG qui dégage tellement de force, tellement de confiance, que aujourd'hui, tu te dis, mais mon Dieu, si ils ont moins de blessures que sur le mois d'août ou le mois de septembre, le Paris Saint-Germain. Mais arrêtez de me dire qu'il va y avoir match avec n'importe quelle équipe de Ligue 1. Il va y avoir encore 15 points d'écart, je vous le dis, entre le premier et le deuxième. Et ça, c'est pas possible d'accepter ça.
Jean-Michel.
Non, mais c'est pas un scoop. C'est pas un scoop. Il y a des manquements terribles dans notre football. Je pense que les gens n'en sont pas conscients. Je ne regarde pas que la Ligue 1, je regarde aussi la Ligue 2, je vous en parlerai un petit peu tout à l'heure. Mais comment voulez-vous que dans un football où jamais on ne travaille la technique individuelle, il y ait des joueurs qui soient capables de rivaliser avec... avec même une équipe B du Paris Saint-Germain.
Ouais.
C'est pas possible. Il y a, Jérôme l'a dit, il y a des équipes, mon pauvre, quand un corner est bien tiré sur les 10 qu'ils ont réussi à avoir,
c'est déjà beau.
Tu as l'impression qu'il va falloir lui décerner un diplôme d'honneur.
Ouais, ouais.
Ben c'est terrifiant. Et nous, nous avons quand même, dans notre football, je le répète et je le répéterai, et je m'adresse là directement au staff technique et à la Fédération française de football, au staff technique. Quand on dit staff technique, qu'est-ce qu'il y a dans staff technique? Il y a bien technique.
Normalement.
Il y a pas un staff, messieurs. Il y a pas un staff où il y a un gars qui s'occupe de la qualité technique, des choses à revoir sur des contrôles de balles, sur des frappes de balles, sur des dribbles, sur des choix, sur de la vision du jeu. Ça n'existe pas. C'est extraordinaire que dans le football français, tu as dans le staff de tout, des préparateurs physiques, des préparateurs psychologiques, des préparateurs mentaux, des pharmaciens, des docteurs. Tu n'as pas un technicien. Moi, demain, les gars, je vous le dis, je fais ma petite communication. Moi, demain, avec les U9 de la JAB, je vais me mettre à genoux à côté des gamins et leur expliquer comment on fait une bonne passe de l'intérieur du pied, comment on fait une bonne frappe du coup de pied et comment on fait une bonne frappe brossée de l'intérieur du pied. Je vous assure, il y a des entraîneurs au plus haut niveau qui savent pas comment ça se passe.
Oui, mais Jean-Michel, dans cette équipe parisienne, il y a beaucoup de joueurs français. C'est pas la formation française qu'il faut attaquer sur ce débat. C'est plutôt
c'est
le niveau des équipes de Ligue 1 par rapport au PSG.
Le niveau est là. Écoute, je fais une digression sur la Ligue 2. Mon cœur est vert.
Ça fait mal.
Mon cœur est vert. J'ai vu Montpellier-Saint-Etienne. Mais j'aurais, quand le ballon était dans les pieds, ils ont gagné 2-0. Donc je parle des Verts. Et ça m'a fait plaisir. Ça m'a un petit peu soulagé. Et c'est parce qu'ils ont gagné que je peux en parler. Mais je voudrais pas être à la place du ballon quand il est dans les pieds de certains défenseurs de la Saint-Etienne. Je peux te dire, il prend quelque chose dans les gencives, le ballon.
Il n'y a pas que les défenseurs.
Et pour te dire tout. Il y a une équipe qui est en tête de la Ligue 2 qui s'appelle le Pau Football Club.
Oui.
Et bravo au Pau Football Club. Ils ont changé 90% de leur effectif parce qu'il n'y a pas de réservoir. C'est difficile, le centre de formation. Pau, c'est le rugby. C'est compliqué. Ils sont en tête. Il suffit de travailler un petit peu. Mais moi, quand je vois les matchs, les pauvres, j'ai de la peine. J'ai de la peine pour les supporters d'Angers, du Havre, de Metz et compagnie. C'est quand même fou. Je ne sais plus quel match. Je ne sais plus quel match, en 90 minutes, il n'y a pas eu un tir au but. Vous l'avez lu, ça? Vous l'avez lu, hein? Vous l'avez
Oui, oui, oui. Non, mais c'est vrai, mais t'as raison.
C'est fou. Donc, moi, j'en appelle au directeur technique national qui, soi-disant, s'appelle Hubert Fournier. Je sais pas.
C'est encore lui. S'il était...
Ah ben je sais pas. Je sais pas. Ouais. Mais exiger obligatoirement, faites des formations sur le travail technique des footballeurs.
Voilà. Coup de gueule est passé.
Voilà. Ça me semble le béaba. Ça me semble la base même de la qualité d'un footballeur. Et on n'a même pas de technicien. On a pour le gardien de but, et c'est normal. On
ouais,
a
mais...
bon, pour mais, la défense, mais, pour l'attaque.
Mais les gars, mais Lille, ils nous ont prouvé à Rome qu'ils avaient du jeu offensif là.
Et de la qualité.
Là, peut-être que ce qu'a mis Bruno en place, Genesio, c'est que c'était pour les contrer, pour gagner ce match. Et c'est ce qui a fait que. Mais après, personnellement, c'est comme un gardien de but. À l'époque, tu gardais tes ballons et pourtant on n'avait pas des gants qu'aujourd'hui. Les gommes, elles ont été, les ballons, ils ont été changés. Aujourd'hui, les chaussures, ça n'a plus rien à voir. Et les pros d'aujourd'hui, les jeunes, s'ils s'entraînent dans de la boue, ils vont crier. Non, mais attendez, mais ils vont crier au scandale. Mais quand
Pascal,
tu vois
je veux bien,
quand,
je veux bien.
Mais, ils s'entraînent mais, plus dans la boue.
Quand tu vois que même faire une touche. Et ne pas mettre le ballon où tu veux avec les mains, c'est grave.
C'est vrai.
Quand tu tires un corner qui sort directement en touche, mais c'est très grave à Benoît, ce niveau-là.
Benoît,
c'est
oui. très grave. Quand tu fais une touche et qu'à ton coéquipier, tu l'envoies sur la tête, à moins de l'envoyer avec un clou le ballon, et qui reste planté dans la tête.
C'est vrai. Un contrôle de la tête, c'est rare. T'as raison.
Il part, oui, c'est pour ça que il part directement à l'adversaire. C'est quand
après,
même
pour en revenir
c'est quand
à
même
Paris.
Le béaba, quand tu as une touche, de la mettre dans les pieds d'un coéquipier quand même.
Vas-y, parce que le béaba, c'est qu'ils vont finir par se le prendre dans le baba.
Pour redevenir sérieux.
Pascal.
Je suis sérieux.
Non, mais Pascal,
quand mais là, ça va impacter sur la confiance à Paris parce que les autres, ils marquent des points.
Non.
Paris, s'ils commencent à en laisser.
Mais non, mais
à la
Pascal,
fin, on va être
Pascal,
champion.
Ah, bah voilà, c'est ça que vous voulez entendre.
Mais Pascal, en fait,
Bruno Genesio, quand il voit la composition d'équipe du Paris Saint-Germain, il doit se dire, tout est aligné pour qu'on puisse faire un résultat. Donc
Tu l'as pas vu ça, ce côté-là. Et c'est ça qu'on reproche.
Je n'imagine pas que ces consignes aient été de laisser voir les
joueurs.
En fait,
à travers tout ce que t'as dit, Jean-Michel et même Pascal, moi, cette explication-là, tu peux la trouver dans les clubs qui ont moins de moyens. Y a pas de problème. Moi, je vois des clubs, Le Havre, Angers, Lorient.
Moins de moyens, tu travailles plus.
Donc tout ce qu'a dit, tout ce qu'a dit Jean-Michel, je le rejoins à 100% sur ces clubs-là qui ont moins de moyens. Par contre, là, on parle de Lille. Lille, c'était l'adversaire de ce week-end, en effet, du Paris Saint-Germain. Et vous l'avez dit très justement, quand tu les vois jouer à Rome. Même s'ils ont énormément de réussite sur ce match, ils doivent pas le gagner. Mais quand même, ils sont à la hauteur. Il y a match avec Rome et ils l'ont gagné en plus, tu vois. Donc, à l'arrivée, tu peux pas accepter que quelques jours après, ça soit juste un problème de récupération, de physique ou quoi que ce soit. Parce que qu'est-ce qui fait la différence sur ce genre de match? Quand tu rencontres le Paris Saint-Germain, bien sûr que tu as envie de renverser le Paris Saint-Germain. J'imagine pas une seule seconde que les joueurs qui sont rentrés sur la pelouse, quelle que soit leur expérience, ils ont pas envie de retourner et de gagner contre ce Paris Saint-Germain dans un stade qui est plein. Ils attendaient que ça. Et les gens, d'autant plus optimistes, parce qu'ils regardent l'équipe du Paris Saint-Germain, et l'équipe du Paris Saint-Germain, c'est une équipe bis. Donc, une fois que tu as fait l'analyse du match... Bien sûr, tu peux faire des mauvais matchs. Ça arrive à tout le monde. Ça m'est arrivé aussi, ça nous est arrivé, Jean-Michel, à Pascal. Il y a des matchs, tu veux être au rendez-vous et tu ne l'es pas.
Ouais.
Il n'y a pas de souci. Le problème, c'est que c'est récurrent. C'est que très souvent, on a ce constat-là quand les équipes jouent le Paris Saint-Germain.
Mais là, c'est là où vous êtes un peu trop dur et il faut un peu analyser toutes les choses dans la globalité. C'est que, ok, le PSG est diminué, mais regardez Paris, ça n'a pas empêché les Parisiens en Ligue des Champions de mettre une tarte à l'Atalanta et d'aller gagner à Barcelone.
Mais c'est avec une équipe. Ça n'a rien à voir. C'est pas une équipe bis à Barcelone.
Il y avait plus d'absents à Barcelone que lors de la défaite au Vélodrome, par exemple, côté parisien.
Mais non.
Désolé, c'est un fait.
Mais non.
Regarde l'équipe. l'équipe qui joue à Barcelone, l'équipe qui joue à Marseille.
Moi, je te dis, à Barcelone, écoutez, à Barcelone, écoutez, ils font un exploit. Barcelone,
ils ont fait un bon résultat là dimanche à Barcelone.
Ouais,
ils,
donc, ça s'est bien passé. Elle est un peu malade,
mais
cette
d'accord,
équipe.
Mais Yamal n'était pas là, par exemple.
Mais n'empêche, pour te répondre sur le match de Barcelone, déjà, t'es en mode, là, il s'était mis en mode Ligue des Champions, en mode où tu sais que tu vas souffrir. Tu sais que même Luis Enrique a fait des choix qui sont un peu plus judicieux. C'est que, contrairement à ce que tu dis, c'était pas une équipe bis à Barcelone. Par contre, ce qu'il a fait au stade Vélodrome, en disant non, il y a des jeunes, ils peuvent pas jouer dans le contexte et tout ça, donc on va changer un peu la formule de l'équipe. On va mettre Hakimi plus haut, Nuno Mendes plus haut. On va mettre un peu plus d'expérience. En effet, il l'a pris dans le nez parce que Marseille a eu du répondant et pendant une mi-temps, ils ont donné une leçon aux Parisiens. C'est vrai. Donc la victoire, ils l'ont pas volée.
Tout ce que je vous dis, c'est arrêter de taper systématiquement sur la Ligue 1 alors que t'affrontes le champion d'Europe, l'équipe qui a impressionné tout le monde. Ok, il y a des absents, mais à un moment,
le PSG aujourd'hui. N'a pas la posture et l'image d'un champion d'Europe,
mais
un futur champion d'Europe.
Mais c'est quoi
le fond de jeu?
60% de possession de balle avec une équipe de gamins. Le fond de jeu, il est là.
Moi, j'en ai rien à faire de la possession de la balle, parce qu'ils peuvent avoir la possession de la balle, Paris Saint-Germain. Et les équipes adverses peuvent avoir 30%, mais poser des problèmes. Le problème, c'est quand tu la récupères, qu'est-ce que tu fais du ballon? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'il te brûle les plaies? Est-ce que tu te satisfais, en effet, de Lille d'égaliser sur un coup du sort en fin de match et de prendre un point et de dire bravo, ou si tu fais l'analyse un peu plus profonde en disant oh les gars, si on continue comme ça, parce qu'il n'y a pas que ce match du PSG, c'est pour ça que j'attaque les Lillois, moi, sur ce match-là. C'est que les autres matchs, là, le classement qu'ils ont, les points qu'ils ont gagnés.
Ils ont perdu à Lens, ils ont perdu contre Lyon.
Puis ils ont gagné à la dernière minute, ils ont retourné en deux minutes Toulouse à domicile alors qu'ils perdaient 1-0. Ouais. C'est insuffisant, ce qu'on voit depuis le début. Lorient, ils en ont mis 7 en deuxième mi-temps, mais la première mi-temps à Lorient, tu crois que c'est suffisant pour Lille? Lille, c'est une équipe qui joue la Coupe d'Europe. Marseille, je vais pas les démonter parce que Marseille, ils sont en total progression. Depuis le mois de septembre. Non, mais c'est vrai, Pascal. Mais pour moi, et c'est là où je mets pied sur frein. Vas-y, attention, dis-le encore, Marseille a battu le Paris Saint-Germain. Mais vu la gueule du Paris Saint-Germain actuel, en effet, je trouve que même ce match-là sur la deuxième mi-temps, Marseille a manqué de maîtrise. Mais je vais pas leur tomber dessus parce qu'ils ont fait un magnifique mois de septembre. Quand tu joues Monaco, tu prends les équipes qui ont des moyens. Mais les gars, c'est insuffisant ce qu'on voit. C'est insuffisant.
Ahmed, supporter parisien au 32-16, Jérôme.
Salut Ahmed.
Salut gars, merci de la parole.
Bienvenue Ahmed. Vas-y Ahmed. Alors, quel ton ressenti sur
le niveau de la Ligue 1?
Personnellement, à part Marseille qui montre de bonnes choses, je vois quand même des équipes qui n'ont pas un niveau vraiment adapté à être des clubs concurrents en Europe ou même concurrents au PSG. On voit qu'Enrique, il a installé depuis un an, même avec les jeunes, il bosse avec les jeunes. On voit qu'il a installé un système de jeu et ils savent ce qu'ils doivent faire, les Parisiens, quand ils sont sur le terrain. Pour peu que tu as un Vitinha, un cadre au milieu qui tient la boutique, et ça tourne. Ils arrivent à s'en sortir. Et tu prends le but de Lille, c'est un but qui passe entre les jambes
de
Beraldo. Sinon, le gardien, il l'a. Et tu pars avec 1-0, tu as pris 3 points et tout le monde dira Paris s'en est encore sorti. Mais dans le jeu, tu vois bien que les Lillois sont. Les Parisiens ont un jeu qui asphyxie l'adversaire, qui oblige l'adversaire à se replier comme une équipe de handball dans ses 16 mètres. Ils font tourner le ballon. Et t'arrives pas à leur prendre parce que ça joue à une touche de balle. Vraiment, ils sont installés. Enrique, il a réussi à installer une machine. Le Barça, en deuxième mi-temps, ils étaient cramés, ils les ont fait courir. Et après, ils les ont tués. Et on voit que Enrique, avec cette base de jeu qu'il a créée, il peut s'en sortir, en fait. Pour peu qu'il ait un Barcola présent, Doué va revenir.
Ahmed, je suis d'accord avec ton analyse. Ça, je suis d'accord. Mais quand tu as l'équipe, on parle juste du milieu de terrain parce que c'est la grande force du Paris Saint-Germain et c'est comme ça que Paris a dominé et arrive, en effet, à gagner la bataille de la possession, ce que veut Luis Enrique tout le temps. Ils asphyxient l'adversaire par leur pressing à la perte de la balle et après, comment ils le confisquent le ballon quand ils l'ont dans les pieds. Ça, je suis totalement d'accord avec toi. Ce que fait Vitinha, ce que fait Joao Neves, ce que fait Ruiz aussi.
Que des Français, après, techniquement.
Ouais,
bon,
hein, que des Français.
Français. Ouais. Non, mais Jean-Michel, Doué, les Français, mais, Dembélé aussi.
Non, mais Ahmed, juste pour te dire
Il y en a un paquet,
Mais
les Français de l'étranger.
Bon, laissez-moi parler, répondre à Ahmed. Mais Ahmed, quand tu en as un qui manque sur les trois que je viens de te citer, et on va dire deux, peut-être que celui qui reste, il arrive quand même à avoir cette confiance-là, à la transmettre aux joueurs qui remplacent Ruiz, Joao Neves ou Vitinha quand ils jouent pas. Mais là, tu vois le milieu de terrain du PSG. Me dis pas que le milieu de terrain doit avoir la possession de la balle et intégrer en effet aussi facilement ce que demande Luis Enrique à Lille, une équipe qui joue l'Europe. Lille
et qui en face avait un milieu de terrain.
Lille l'année dernière, ils ont fait tomber à domicile le Real Madrid, même si c'était un Real Madrid bis.
On remercie Ahmed qui
on peut pas accepter ça les gars. Et c'est pas possible si on accepte ça. Mais notre championnat en fait, il vaut plus rien.
Dans
c'est
un
Paris
instant,
et puis voilà.
Le procès de Roten sans flamme, mais avant c'est le moment de vous inscrire pour le jeu les poupées russes RMC Pascal Olmeta. Chaque poupée cache un cadeau, un iPhone, une console, un voyage, jusqu'à 5000 euros. C'est le moment de vous inscrire en envoyant RMC par SMS au 732-16. RMC au 732-16. Allez, dans un instant, on ouvre le procès de la Fédération Française de Football et de sa communication sur la blessure de Bradley Barcola. A tout de suite sur RMC.
RMC, jusqu'à 20h.
Roten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Roten.
18h30 sur RMC, on est là dans la deuxième demi-heure de Roten sans flamme avec, avec Jean-Michel Larquet, avec Pascal Olmeta. Il est là, le Corse, il va passer sur le détecteur de mensonges dans.
Ça y est, la machine est branchée au bout de son doigt.
Ouais, elle saurait pas.
Je vais brancher.
Ah bah oui, oui, elle est branchée. Elle est branchée, ouais. T'as vu, ça bip direct. Ça bip direct. On est avec Benoît Boutron aussi, bien sûr, dans 15 minutes. On va recevoir un joueur de l'équipe de France, un nouveau joueur de l'équipe de France, pas encore capé.
Jean-Philippe Mateta,
on lui souhaite.
Peut-être sa première cape contre l'Azerbaïdjan ou en Islande. Voilà, il nous a accordé quelques minutes à Clairefontaine aujourd'hui. Et donc, 19h, le jeu de la vérité.
Bien reçu à Clairefontaine.
Pascal Olmeta, très bien reçu. Ravi de voir Jérôme Bretel.
Ravi de voir,
Donc Pascal, sur toutes ses anecdotes, sa carrière, l'OM, vous allez vous régaler avec Pascal à partir de 19h. Mais on y va sur le procès.
RMC, Roten sans flamme.
Il va falloir venir chez nous, hein. Il faut pas avoir la grippe ni la gastro, parce que ça va se régler comme d'habitude, comme des hommes, comme des Corses.
Le procès de Roten sans flamme.
Encore une bagarre par communiqué interposé entre la Fédération Française de Football et le Paris Saint-Germain. Hier, Bradley Barcola est allé à Clairefontaine faire constater sa blessure aux ischio-jambiers. S'en est suivi un communiqué de la fédération. Barcola présente une lésion chronique de l'ischio droit depuis le match face à l'Atalanta Bergame le 17 septembre. Problème, depuis, Barcola a disputé 3 matchs avec le Paris Saint-Germain, donc ça a provoqué une réaction du PSG via communiqué un peu plus tard dans la soirée. Le PSG a transmis à l'équipe de France un bilan médical de Bradley Barcola, ne faisant en aucun cas état d'une lésion chronique après le match face à l'Atalanta. Le PSG insiste également sur le fait que le secret médical doit être respecté pour le bien de toutes les parties. Et forcément, RMC Sport, on a enquêté. Et on peut vous confirmer que Bradley Barcola traîne effectivement un inconfort à la cuisse depuis le 17 septembre et que la douleur s'est réveillée après une frappe dimanche soir à Lille. On ouvre donc le procès de la Fédé et de sa communication sur la blessure de Barcola. Le procureur, c'est Monsieur Jérôme Roten. Bonsoir.
Bonsoir.
Deux avocats de la Fédération Française de Football, Maître Larquet et Olmeta. Bonsoir.
Bon laser.
Monsieur Larquet, vous êtes là?
Il se fait pomper.
Oui, oui, mais je me.
Il est là.
Un peu de, respect pour le vieux.
Allez,
je suis là.
Et le verdict sera rendu par Thomas, supporter du PSG.
J'ai affûté mes arguments.
Au 32-16. Magnifique. Salut Thomas.
Salut Thomas.
Salut messieurs. Bonjour à tous.
Bon, allez, c'est parti pour ce procès. Soyons efficaces. Monsieur Roten, qu'est-ce que vous reprochez à la Fédé?
Pas trop long, hein?
Non, ça va pas être trop long. Ce que je reproche à la Fédé, c'est ce fameux communiqué sur le forfait de Bradley Barcola. Parce que je suis désolé, c'est pour ça que j'ai du mal à comprendre la position de Jean-Michel et Pascal, et j'ai hâte d'écouter leurs arguments. Mais parce qu'ils sont passés par là, par la sélection, et ils savent très bien que qu'ils savent très bien que, en effet, quand t'as un souci avec ton club, tu viens le faire constater à Clairefontaine. Ça a toujours existé. Même à notre temps. Et une fois que tu fais constater que tu ne peux pas jouer, tu rentres à la maison et puis il n'y a pas d'histoire de communiquer pour expliquer pourquoi il est forfait, il est blessé, basta. Et là aujourd'hui, on rentre dans les détails. Sauf que je suis désolé, ces fameux détails. Moi, j'ai pas la mémoire courte. Parce que le staff médical, c'est le même depuis quelques années en équipe de France.
Oui.
Et ce fameux staff médical, rappelle-toi comment ils ont communiqué à l'époque sur le forfait de Karim Benzema à la Coupe du Monde au Qatar. D'accord? Donc moi, je vous renvoie écoutez, voilà, c'est juste là pour dire qui était fautif, Karim Benzema, l'agent de Karim Benzema, le staff médical de Karim Benzema. Non, en fait, ils font des communiqués comme ça.
Les arrange. Tu veux dire que c'est un peu sournois d'avoir précisé qu'il est blessé.
Mais c'est complètement sournois, ouais. Parce que à l'arrivée, déjà, il dit maladie, du moins un problème chronique. Donc ça veut dire que, en effet, c'est pas très cool de dire ça, parce que ça veut dire que
ça sous-entend qu'il a joué blessé.
Qu'il a joué blessé et que véritablement il faut.
Qu'il avait une petite gêne.
Mais qu'il ait une petite gêne, Jean-Michel, il n'y a pas de souci. Ça reste en interne. Il y a le secret médical aussi. J'imagine que toutes les blessures constatées à Clairefontaine, il n'y a jamais eu de communiqué de la sorte. Et que là, c'est un petit règlement de compte par rapport à ce qui s'est passé sur le dernier rassemblement. Donc, en fait, ça s'arrêtera jamais, ces conneries-là. Parce qu'on nous explique que, d'un côté, et sur le dernier rassemblement, rappelle-toi les blessures de Doué et Dembélé, ouais. J'avais dit, j'en voulais au PSG en disant,
communiquer comme ça,
ouais, c'est vraiment aller au-delà et dépasser un peu et ne pas respecter l'encadrement de l'équipe de France. Mais là maintenant je tiens
le discours inverse
parce que ce n'est pas normal et je vous le dis pourquoi, parce que le docteur de l'équipe de France,
oui,
qui s'appelle Frédéric Le Gall.
Monsieur Le Gall, ouais.
Voilà, donc Frédéric Le Gall, moi je le connais bien, je l'ai eu quand j'étais gamin à Clairefontaine, d'accord. Il a pris la suite du docteur Molinier, qui était resté un an, mais qui vieillissait. Et donc, à l'arrivée, voilà, Monsieur Le Gall est arrivé docteur pendant 2 ans, pas de problème. Après, il est arrivé, il a passé les étapes.
Faut aller vite.
Et il est arrivé aujourd'hui docteur de l'équipe de France depuis X années. Pas de problème. Mais je pense qu'il a oublié quelque chose, c'est que dans le passé, t'avais aussi des relations avec des gens qui travaillent dans les clubs et des gens qui travaillent aussi aujourd'hui au PSG. Mmh. Et c'est bien d'avoir un discours assez fluide et transparent. Tu vois,
parce qu'on se parle pas entre staff, quoi.
Mais non, ils se parlent plus. En fait, aujourd'hui, c'est Dieu le Père. Okay. Tu vois, t'es docteur de la Fédération Française de Foot de l'équipe de France A. Mmh. Et donc maintenant, c'est toi qui va diriger et qui va nous sortir des communiqués qui mettent en difficulté. Déjà, le club, le Paris Saint-Germain, ça peu importe, mais surtout Bradley Barcola. Et moi, je prends ce joueur. Et c'est pour ça que je comprends pas comment Jean-Michel Larquet, qui a été joueur, et Pascal Olmeta vont défendre des gens qui sortent des communiqués, qui racontent réellement ce qu'a Bradley Barcola. Allez-y.
Occupez-vous. C'est bien de vous occuper de vos clients, monsieur Roten. Ne vous occupez pas de nous, on est assez grand. Justement, on est majeur et vacciné, donc on va s'occuper de nous. Très bien. Voilà. D'abord, je m'étonne que maître Roten, qui veut tout savoir et qui hurle chaque fois que quelqu'un ne s'explique pas, qu'il n'apprécie pas qu'il y ait une communication. Parce que le secret médical dans le sport, c'est à peu près comme le secret d'instruction dans les affaires pénales. C'est-à-dire qu'il n'est jamais respecté. C'est pas vrai. Jamais. Jamais. Donc là, c'est la cour de récréation et chacun y va de son petit communiqué. Mais que je sache, il y a d'autres blessés malheureusement du côté du Paris Saint-Germain et on a salué à juste titre l'an passé la gestion et de Luis Enrique et du staff médical, où on a eu, on va généraliser, où il n'y a pas eu de blessés. Et en tout cas, pas de blessés de longue durée. Mais maître Roten, Kvaratskhelia qui jouait pas, Marquinhos qui jouait pas, Fabien Ruiz qui est fatigué, Neves, ils n'ont pas été blessés avec l'équipe de France. Ils se sont pas blessés avec l'équipe de France. Malheureusement, il y a un cycle. Et ce cycle-là, j'ai l'impression que le service médical du Paris Saint-Germain, que je ne remets absolument pas en question sa compétence. Je dis simplement qu'il a du mal à l'accepter. Il a du mal à l'accepter. Et quand le sélectionneur national, ôtez-moi d'un doute, le sélectionneur national, quand il fait jouer Dembélé, il le fait jouer pour qu'il se blesse ?
Non, évidemment que non.
Eh bien sûr que non. Alors, est-ce que Dembélé, à son âge et avec son expérience, il se connaît ou il se connaît pas ?
Les blessures arrivent, c'est une cour de récréation.
Et moi, pas de Dembélé, c'est hors sujet. On parle de Barcola.
Non, c'est de là, c'est de là que tout est parti. C'est de là que tout est parti.
C'était le premier épisode de. C'est de là que tout
est parti. C'est de là que tout est parti. Et
c'est malheureusement, la cour d'école, ça s'arrête pas.
C'est la cour d'école. Et celui est le premier. Et le premier qui a dégainé, malheureusement, Jérôme, le premier qui a dégainé. Ah non.
Ah bah
non.
Le premier qui communiquait, c'est la Fédé en premier.
Non, non, le premier qui s'est plaint. Le premier qui s'est plaint. C'est le Paris Saint-Germain. Laissez, sur la paire d'Embélé.
Monsieur Olmeta, dégainé. Dégainé, monsieur Olmeta.
Oui, l'institution de football, mais ils n'ont rien dit. C'est que ils ont constaté qu'il était un petit peu gêné. Ah, d'accord, okay. Il est arrivé là-bas, à Clairefontaine, avec ses radios. Et puis, pour pas nous... Je ne sais pas où en polémique... Parce que de suite, le Paris Saint-Germain, il a dit non, vous n'avez pas à dire ce qui se passe. Non, mais attendez, le Paris Saint-Germain, il n'a pas à donner des leçons à qui que ce soit. Si le joueur est vraiment blessé, c'est pas Didier Deschamps qui va le mettre sur sa feuille de match. Si le joueur lui-même lui dit, coach, je ne peux pas jouer, je suis blessé.
Parce qu'il a fait.
Non, mais après... ce qu'il a fait, ben voilà, mais qu'il pourquoi a fait, on va pourquoi... polémiquer, alors, pourquoi alors, le Paris Saint-Germain va dire à la 3F,
mais alors tu
mais
trouves
vous n'êtes pas en droit de divulguer, mais attendez, mais il est où le problème?
Tu trouves normal que le communiqué soit tourné dans ce sens-là de la Fédé, toi?
Entendre que Barcola jouait blessé.
Alors
justement, le verdict de Thomas au 32-16.
Il est une petite gêne.
Mais si c'est pas des grosses, c'est une petite gêne, c'est pas grave. Il a pas dit
Thomas. Vas-y Thomas. Ah, moi je penche en faveur du procureur forcément parce que comme Jean-Michel, je ne remets pas en cause en fait la compétence en fait des deux staffs respectifs médicaux mais il y a quand même un petit passif entre les deux institutions. Moi je vois ça comme une guéguerre d'ego en fait limite entre non toi tu dis pas ça
pour
moi
j'ai le droit de dire
ça. Bah oui. Voilà, c'est ça. Sauf que bon, il y a eu le cas d'Embélé que moi j'inclus dedans hein, Jean-Michel. Tu fais bien de parler d'Embélé. Si on s'en réfère aussi au courrier qu'avait envoyé le Paris Saint-Germain, ils avaient mis en alerte sur l'état de santé de Dembélé avant le match sur lequel il s'est blessé. Alors après, Jean-Michel disait oui, Dembélé se connaît, il peut dire s'il joue ou pas. Dembélé, il se connaît, Jean-Michel, mais il n'est pas médecin non plus. Si le staff médical du PSG envoie un courrier comme ça préventif, c'est aussi dans le but de protéger la santé du joueur sur un match qui n'était en plus pas forcément décisif. Alors voilà, moi je comprends pas que deux grosses institutions comme ça se tirent la bourre en fait sur des sujets importants que sont l'état de santé des joueurs. Mais je suis très surpris de voir que la FFF communique très rapidement en fait sur l'état de santé de Barcola pour qu'en fait le PSG vienne contredire ça juste après.
Thomas, tu donnes la victoire.
Non mais c'est surtout Thomas là où t'as raison. Et là on finit là-dessus. Merci Thomas d'être venu et de m'avoir fait gagner, bien sûr. Ouais. Mais là où c'est problématique, et Jean-Michel et Pascal, vous êtes d'accord avec moi, c'est que c'est le joueur qui va en pâtir. Parce que c'est le joueur qui est au milieu de tout ça. C'est-à-dire les batailles de communiquer, vas-y, ouais, je t'envoie la balle.
J'ai pas envie que ça soit divulgué.
Non, mais exactement. C'est dramatique.
18h42 dans un instant. Jean-Philippe Mateta, la surprise de la liste de Deschamps. Invité fumé. De Rotten Sport.
Les deux vieux,
à
là.
Tout de suite, ouais.
RMC, 18h-20h, Rotten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
18h47 sur RMC, on est là, on est bien dans Rotten sans flamme. Les 10 dernières minutes de la première heure de Rotten sans flamme avec le Halo Jérôme. Et on va recevoir un membre de l'équipe de France, un nouveau membre de l'équipe de France. Jean-Philippe Mateta est en coulisses, il est là. on va l'entendre dans un instant. On est avec Benoît Boutron, on est avec Jean-Michel Larc et Pascal Olmeta. Et après 19h...
Aïe, dans un quart d'heure, là, le jeu de la vérité, Pascal Olmeta va tout vous dire, toutes ces anecdotes. Voilà, il nous dira.
C'est que là, il est sous pression.
Ah ouais, j'ai hâte.
Déjà, je l'ai senti. Pascal, je t'ai senti, mais libère-toi. Je t'ai senti tendu, là.
Pascal, prépare ta défense, hein, parce que là, tu vas être attaqué sur tous les sujets. Mais tout de suite, Jean-Philippe Mateta est dans Rotten
sans flamme. RMC, Rotten sans flamme.
Mateta, 1-1. Jean-Philippe Mateta on target for Palace. Mateta, 1-1 with Kilman here. Mateta! What
such a blistering finish.
Allô Jérôme.
C'est l'événement tous les jours, un acteur du foot dans Rotten sans flamme. Rotten sans flamme qui s'est déplacé aujourd'hui à Clairefontaine. Jérôme, on est avec Arthur Perrault, suiveur des Bleus.
Salut messieurs. Arthur. Bonjour à tous.
Parce qu'on
bonjour
est...
Arthur, merci de nous accueillir dans la maison du football français.
Ça fait plaisir que tu sois là à Clairefontaine.
On racontera les coulisses de l'avenue de Jérôme Rotten. T'as manqué à beaucoup de gens ici.
C'est vrai.
Non, on est ravis d'être là parce qu'on accueille la surprise de la liste de Didier Deschamps avec nous, Jean-Philippe Mateta, attaquant de Crystal Palace.
Salut Jean-Philippe.
Merci, bonjour.
Ça va Jean-Philippe?
Ça va, et vous?
Ça peut que aller. Hein,
ah bon, je peux vous voyez.
Non, tu vas me tutoyer. Dire quoi. Ah, je suis si vieux que ça.
Non.
Et Titi Henry, qui a le même âge que moi, qui a été ton coach au JO, tu le tutoyais ou tu le voyais? Ah bah alors tu vas me vouer. Non, je vais... Bon, Jean-Philippe, déjà c'est quelle première réaction, premier pas ici au château à Clairefontaine, c'est magnifique.
Oh, c'est magnifique, je connaissais déjà Clairefontaine, mais venir pour les A, c'est indescriptible, c'est un rêve quoi.
C'est qu'on ressent quand on est joueur un petit peu la première sélection. Alors là, je sais qu'il y a eu beaucoup de blessés et que en effet, donc Didier Deschamps a fait appel à toi, mais sans ces blessés quand même, sur les derniers mois, les dernières années, tu te rapprochais du niveau international. Est-ce que à chaque sélection, tu regardes ou tu avais des petits échanges aussi peut-être avec le sélectionneur?
La première sélection, c'est toujours, tu l'attends toujours parce que souvent tu es présélectionné, donc souvent tu as l'espoir d'être appelé. Après, tu n'es pas appelé, je suis un mec qui est toujours ambitieux. Si c'est pas aujourd'hui, c'est demain, c'est pas demain, c'est après-demain. Et j'espérais beaucoup et quand j'ai réussi cette convoque, franchement, j'étais vraiment content.
On t'a vu hier arriver Jean-Philippe totalement décontracté à Clairefontaine avec le sourire, comme si voilà, ça glissait sur toi. Comment s'est passée ton intégration? On sait que t'es proche de Michael Olise. Est-ce qu'il t'a donné quelques petits tips en arrivant? On le sait que lui, il est un peu timide. Est-ce qu'il t'a aidé quand même?
Michael Olise, il jouait avec lui plusieurs années à Crystal Palace et aussi au JO. Et après, il y a aussi les gars avec qui je joue contre. Konaté de Liverpool, il y a aussi ceux avec qui j'ai fait les JO, et après aussi je suis quelqu'un, j'ai pas peur de comment ça s'appelle,
du contact,
du contact, ouais. Je peux parler,
t'es pas timide,
voilà, je suis pas timide,
de toute façon,
pas timide, fais des blagues, c'est important pour une vie de gros,
exactement, pour l'intégration c'est important.
Ouais, c'est important,
et d'autant plus pour Didier Deschamps qui doit observer, parce que lui c'est un fin observateur, que ce soit sur le terrain ou en dehors. On parlait de tes saisons anglaises, alors on pourrait parler aussi en Allemagne et tout ça, mais dernièrement, tes saisons anglaises, c'est vrai que sur les deux dernières saisons, tu es très performant, tu marques 30 buts, hein, c'est ça, je crois, sur
30 buts sur les deux dernières
ans.
Saisons.
Comment t'expliques ce déclic que tu as eu et, est-ce que c'est dû à l'ambiance d'un club ou au travail, au conseil de certains anciens? J'imagine que quand tu croises la route de Thierry Henry, qui a été son sélectionneur avec les JO, ça peut aider dans la progression.
Oui, ça a aidé beaucoup. J'ai regardé des vidéos avec lui. De ses propres buts, on a fait des vidéos sur lui. Et ces deux dernières années, j'ai eu des bons résultats parce que déjà, le club, ils me font confiance. J'ai un coach qui me fait confiance et comme vous l'avez dit, c'est beaucoup de travail aussi. Beaucoup de travail acharné, beaucoup de gros objectifs. Et c'est pas fini, j'espère faire plus.
Quand on arrive, alors déjà vous avez gagné un trophée l'année dernière avec Crystal Palace, c'était pas arrivé depuis X années, je sais plus combien de temps.
C'était même le premier trophée de l'histoire.
Donc déjà ça marque, mais quand tu gagnes des trophées comme ça, que tu réalises des bonnes saisons, où tu marques beaucoup de buts, forcément tu as aussi envie au bout d'un moment de passer un cap. Tu parlais de ton âge tout à l'heure, 28 ans, t'es pas vieux, mais t'es pas non plus jeune. Est-ce que, tu vois, dans ta progression, t'as un plan qui te dit, tiens, peut-être que j'ai envie d'atteindre les sommets et de jouer dans un des top clubs anglais?
Oui, c'est naturel, ça. C'est comme tout joueur ambitieux, il veut passer ce cap-là. Surtout, en plus, quand t'as une sélection et tu viens, autour de toi, c'est que des joueurs qui jouent la Champions League, ils gagnent les meilleurs trophées. On joue autour des meilleurs joueurs du monde, donc naturellement, tu veux passer ce cap-là.
Est-ce que tu as eu un échange personnel déjà avec Didier Deschamps? Est-ce qu'il t'a donné quelques conseils? Est-ce qu'il attend de toi?
J'ai parlé avec lui et le coach m'a fait comprendre que le choix, je l'ai mérité et que feel free. Libère-toi, sois à l'aise, te prends pas trop la tête.
Il ne l'a pas dit en anglais.
Non, ça c'est sorti de ma tête. Non, trop d'interviews en anglais. Ça.
Bah, si tu lui parles anglais, là il va être largué.
Sens-toi à l'aise et joins-toi au groupe. Voilà.
En revanche, tu arrives sur ce rassemblement avec deux matchs un peu particuliers, notamment celui de vendredi qui est au Parc des Princes face à l'Azerbaïdjan, qui est un adversaire sur le papier très abordable pour nous. Forcément, il va aligner quelques cadres, mais on peut aussi espérer pour toi que tu aies un peu de temps de jeu, donc il y a peut-être un coup à jouer dès vendredi pour toi. Est-ce que ça, tu l'as déjà dans un coin de la tête, ou est-ce que tu te dis juste je démarre les séances, j'arrive dans le groupe et je me contente un peu de ça pour le moment?
Non, moi je prends ce qu'on me donne, que ce soit Azerbaïdjan ou autre. S'il me met sur le terrain, je vais donner à 100%.
T'as une opportunité de marquer, quoi. Si tu joues contre cette équipe.
Bon, oui, bah, je pense que je peux marquer aussi pour
contre. Ah non, mais
pas
évidemment.
Contre les Arméniens.
Non, mais évidemment. Ça serait bien.
Ça serait bien.
Tu sais que mon seul but en équipe de France sur coup franc, c'est contre les îles Féroé. Hein.
Ok.
Alors après, c'était le meilleur gardien d'Europe, le gardien des îles Féroé à l'époque, mais non, je plaisante. Mais bon, ça marque dans tous les cas. Mais déjà la première sélection, en tout cas, je te le souhaite. Moi, je voudrais revenir un peu sur ce que t'as vécu au JO avec Thierry Henry, c'était quand même une aventure fabuleuse, tu vois, et pas gagné au départ, avec tous les soucis qu'a eu Thierry pour composer ce groupe, mais ça a été une belle preuve de confiance à ton égard aussi, parce qu'il t'a pris, tu faisais partie de tes trois joueurs surclassés, entre guillemets.
Qui passaient la limite d'âge.
Et est-ce que ce parcours-là, est-ce que c'est le meilleur moment de ta carrière? Cette vie commune là pendant quelques semaines et surtout ce que ça t'a apporté, quoi.
Non, comme tu l'as bien dit, ça a commencé vraiment, c'était vraiment pénible pour le coach parce qu'il demandait aux joueurs de venir. Même moi au début c'était non, mais ça a fini par dire oui. Et il y avait des joueurs qui venaient, qui partaient, qui voilà. Et au final ça s'est très bien fini. On savait pas que ça allait finir comme ça. Franchement, humainement c'est l'un de mes meilleurs moments dans ma carrière.
Et pour toi, c'est particulier, tu marques en quart, deux fois en demi et en finale. Donc, tu es un acteur majeur de ce tournoi olympique. Donc, déjà, le souvenir personnel est magnifique. Ouais. Et c'est une façon aussi de. Est-ce que tu as senti qu'en termes de notoriété en France, tu as changé à ce moment-là?
L'avant et après, considérable. Ouais.
Le bisutage est bien passé. Tu as chanté quoi comme chanson?
Non, c'est ce soir.
Ah, c'est ce soir. Ce soir. T'as ta chanson?
Tu as chanté quoi?
Je pense que j'ai chanté Champs-Élysées.
Ah, pas mal! Magnifique! Tu peux nous faire un petit refrain ou pas?
Aux Champs-Élysées.
Aux Champs-Élysées. Spécialiste de la chanson.
Ah, oui. Merci Jean-Philippe Mateta.
En tout cas, merci, bon courage. Je te souhaite vraiment de découvrir ta première sélection. Là, c'est le premier rassemblement.
Au Parc des Princes en plus.
Au Parc des Princes,
j'espère,
ça va être fantastique.
J'espère.
Parce que quand tu étais plus petit, peut-être que tu m'as vu jouer au Parc des Princes. Voilà. Maintenant, c'est moi qui vais te voir jouer.
Ah,
je vais être dans les tribunes. En tout cas, je te le souhaite.
Merci.
Merci d'être là.
Merci les gars.
Merci à Jean-Philippe Mateta. La version longue est à retrouver sur nos podcasts Rotten sans flamme dans les plateformes de téléchargement. Et dans un instant, c'est parti pour le jeu de la vérité. Pascal Olmeta va dire la vérité, toute la vérité.
Rien que la vérité.
Ouais. Restez avec nous, Rotten sans flamme.
On va faire exploser la machine
jusqu'à 20h sur
le mensonge.
RMC jusqu'à 20h.
Rotten sans flamme.
Retrouvez Rotten sans flamme en direct chaque jour dès 18h sur RMC.